Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Cette semaine, je vous emmène à la découverte du Delaware. C'est le deuxième plus petit État des États-Unis. Il attire les entreprises les plus puissantes du monde. C'est l'État d'une famille franco-américaine, symbole du capitalisme américain. Et puis bien sûr, c'est aussi l'État de l'actuel président des États-Unis. Hello everyone. Je vous envoie cette lettre depuis Wilmington, dans le Delaware donc. Et on continue notre découverte mensuelle des États américains. Vous l'entendez peut-être, il y a du vent. Il fait froid d'ailleurs. J'ai déjà été dans des conditions plus agréables pour enregistrer le podcast, mais ce n'est pas très grave. Je me trouve devant un immeuble tout à fait banal, mais qui concentre en très peu de mètres carrés les plus grandes richesses du monde. Vous vous demandez sans doute pourquoi. Je vais vous expliquer ça, mais un petit peu plus tard. Alors, pour vous situer l'État, c'est au nord de Washington, au nord-est plus exactement. C'est un État côtier entre Washington donc, et New York, mais plus près de la capitale fédérale. Je reviens d'ailleurs de Washington et je rentre au bureau RTL de New York et j'en ai profité pour faire un stop ici à Wilmington pour enregistrer ce podcast. Le Delaware a plusieurs surnoms, mais le plus usité est le First State, c'est-à-dire le premier État, puisque c'est le premier État à avoir ratifié la Constitution américaine en 1787. Vous savez, il y a d'abord eu la déclaration d'indépendance de 13 colonies en 1776 et puis l'adoption d'une constitution en 1787. Et les représentants du Delaware l'ont signée le 7 décembre de cette année-là. Ils suivront le même mois la Pennsylvanie d'ailleurs, juste à côté, et le New Jersey. Et on arrivera à 50 États en 1959 avec l'adhésion de l'Alaska et de Hawaï. Alors, les habitants de l'État sont assez fiers d'avoir été en quelque sorte précurseurs de la constitution du pays, puisque c'est l'un des slogans non officiels de l'État où on dit ici c'est bon d'être le premier. Alors, pour l'origine du nom, il vient du fleuve Delaware, qui lui-même viendrait de Thomas West, un Britannique, troisième baron de la War, W-A-2-R, et ça serait donné Delaware. Donc, les premiers à avoir colonisé ce territoire étaient les Hollandais, et puis après vinrent les Anglais. Même si le Delaware faisait partie de l'Union, il a eu du mal à abolir l'esclavage. On dit que c'est l'État le plus sudiste des États du Nord, et c'est l'un des derniers à avoir ratifié en 1901 les trois amendements consacrant l'abolition de l'esclavage. Alors, outre le premier État, un autre surnom est donné au Delaware, c'est la Petite Merveille. Alors, selon la légende, ce serait Thomas Jefferson qui aurait qualifié l'État de joyau en raison de sa situation stratégique le long de la côte Est. Alors, au niveau de la population, le Delaware, c'est un peu plus d'un million d'habitants. Ça en fait le sixième État le moins peuplé et le deuxième État le plus petit en superficie. Un peu plus de 5000 km², l'État le plus petit étant Rhode Island, pas très loin d'ici. Alors, pour vous donner une idée, le Delaware, ça fait 154 km de long. C'est un État assez longiligne, 56 km dans sa partie la plus large. Donc, c'est un confetti, hein, l'État à l'échelle des États-Unis. Le nord de l'État est assez vallonné. Il y a beaucoup de côtes, donc il y a donc pas mal de plages sur la côte atlantique. Alors, Wilmington, où je me trouve, est la ville la plus peuplée. Ce n'est pas une ville très intéressante, comme ça, très passionnante. J'y avais passé quelques jours pour les dernières élections présidentielles. J'y reviendrai. Wilmington, qui n'est pas la capitale administrative, qui s'appelle Dover. Souvent, d'ailleurs, les capitales administratives des États américains ne sont pas les villes les plus connues, par exemple Tallahassee en Floride, qui n'est pas, qui est évidemment beaucoup moins connue que Miami ou Orlando. Alors, le bâtiment devant lequel je me trouve, dont je vous parlais tout à l'heure, un bâtiment en briques, avec un seul étage, qui n'a pas grand intérêt hein, pour tout Pour tout vous dire, c'est un bâtiment assez moche, dans un quartier tout à fait banal. Je me trouve exactement au 1209 North Orange Street. C'est dans le centre-ville de Wilmington. Alors, c'est un peu résidentiel. Il y a un parking en face, il y a la chambre de commerce juste à côté. Alors, ok, du coup, vous vous demandez pourquoi je vous parle de ce bâtiment s'il n'a aucun intérêt. Eh bien, parce qu'en fait, il en a de l'intérêt. Ces dernières années, il a servi d'adresse postale à plus de 285 000 entreprises, et ce qui permet à des sociétés du monde entier de bénéficier des lois favorables, des lois très favorables aux entreprises qui s'installent dans le Delaware. Alors, 68% des entreprises du classement, ce qu'on appelle le classement Fortune 500 aux États-Unis, et bien 68% de ces entreprises les plus riches sont enregistrées ici, dans l'État du Delaware, et beaucoup d'entre elles dans ce bâtiment en briques devant lequel je me trouve. Les fenêtres, il y a de grandes fenêtres, mais elles sont opaques. Voilà, une certaine culture du secret. J'ai essayé de sonner tout à l'heure pour voir s'il y avait quelqu'un. On ne m'a pas répondu. Bon, j'imaginais pas non plus qu'on allait m'ouvrir grand les portes pour que je puisse aller voir ce qui se passe à l'intérieur, puisque la culture du secret de cet endroit, eh bien, c'est l'un de ses succès. En tout, dans cet état, dans l'état du Delaware, il y a 1 600 000 entreprises. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, je ne sais pas s'ils ont bougé depuis, plus d'1,5 million d'entreprises, donc à travers le monde, qui sont enregistrées ici. Et le Delaware est reconnu internationalement comme un paradis pour les entreprises qui en ont fait leur foyer fiscal, foyer virtuel. Et quand je parle de grandes entreprises, hein, c'est Amazon, Google, Tesla, Walmart, Disney, pour n'en citer que quelques-unes. Alors, quand on parle de paradis fiscal, on cite plus facilement les îles Caïmans, Jersey ou les Bahamas. Pourquoi le Delaware? Eh bien, il faut remonter un peu plus d'un siècle en arrière, dans un autre état, un peu plus au nord, le New Jersey. Alors, à l'époque, le gouverneur du New Jersey, c'est Woodrow Wilson. C'est un nom qui vous dit sans doute quelque chose. Ce sera le futur président des États-Unis, notamment pendant la Première Guerre mondiale. C'est lui qui a lancé la Société des Nations. Il aura d'ailleurs le prix Nobel de la paix pour ça, la Société des Nations, l'ancêtre bien évidemment de l'ONU. Sa présidence marquera la fin de l'isolationnisme américain. Et au début des années 1910, Woodrow Wilson décide de nettoyer son État qui jouit d'une très mauvaise réputation avec des investisseurs peu scrupuleux, de l'argent pas très propre qui circule, car à l'époque il n'y a pratiquement aucune régulation, aucun contrôle. Et par exemple, 1910, c'est en gros le début d'Atlantic City en tant que capitale de l'amusement et donc des jeux. Woodrow Wilson veut y mettre un terme, en tout cas mettre un frein. Ça effraie pas mal d'entreprises. Et les clients de ces entreprises qui n'ont pas forcément envie que l'on mette le nez dans leurs affaires. Et pendant ce temps, le Delaware, qui a bien compris ce qui se passait, eh bien, fait tout à fait le contraire, encouragé notamment par des membres de la famille Dupont. Alors, avant de détailler les particularités fiscales du Delaware, j'appuie sur pause pour vous parler de la famille Dupont. Les Dupont-Nemours, c'est un nom qui vous dit quelque chose. C'est l'une des entreprises les plus puissantes des États-Unis, qui a prospéré dans la chimie, et c'est l'une des familles les plus riches actuellement, 15e fortune du pays. Dupont, ça sonne bien français, et pour cause, puisque la famille Dupont-Nemours est française à l'origine, anoblie en 1783, juste avant la Révolution, c'est un soutien de la famille royale, et notamment de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et du coup, la cote des Dupont-Nemours a forcément été au plus bas après la Révolution, et notamment pendant la Terreur. Pierre Samuel, le père de famille, échappe de peu à la guillotine, et du coup, il décide de partir dans le Nouveau Monde, aux États-Unis. En plus, ce sont des Huguenots, des protestants, donc ils seront bien accueillis. Donc le patriarche noue en plus des relations assez fortes, des relations étroites avec le président des États-Unis, Thomas Jefferson, ce qui facilitera bien sûr son succès. En 1800, donc, la famille s'installe dans le Delaware et rapidement, un membre de cette famille Eleuther Irénée Dupont de Nemours crée l'entreprise qui porte aujourd'hui encore leur nom. À l'origine, c'est une usine de poudre à canon et ça deviendra vite le principal fournisseur de l'armée américaine. La société deviendra un géant mondial de la chimie, mettant notamment au point le nylon, le téflon, le lycra, toutes des matières qui vous parlent, avec au passage quelques scandales, notamment un scandale écologique. Je vous renvoie pour ça à la lettre d'Amérique consacrée à la Virginie-Occidentale où j'en parle. 65 000 salariés dans le monde et près de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est l'un des symboles de la réussite américaine et en l'occurrence de Français qui ont réussi aux États-Unis. La famille a donné naissance à des consuls, des gouverneurs, des diplomates, aussi un assassin. Une famille avec des histoires complexes, mais une famille donc très puissante. Et en quelques décennies, le petit État du Delaware est passé sous l'emprise de son entreprise reine avec la révolution industrielle et les profits pendant la Première Guerre mondiale. Dupont devient un géant de la chimie et le principal employeur du Delaware. On le voit d'ailleurs ici à Wilmington. En arrivant, je suis passé par exemple devant un hôtel qui s'appelle l'hôtel Dupont. Et d'ailleurs, le lien entre la famille Dupont de Nemours et la ville se voit quand vous vous promenez. À l'instant, je viens de passer devant un hôtel qui s'appelle l'hôtel Dupont. Je n'ai pas vérifié, mais je suis à peu près certain qu'il y a une rue ou un boulevard Dupont et peut-être un pont Dupont. Voilà, ça c'était pour la blague qui, je vous l'accorde, n'est pas non plus excellente. Le Delaware a façonné Dupont autant que Dupont a façonné le Delaware. C'est le résumé d'un homme politique local sur ce lien étroit et très important entre les deux entités, d'où un autre surnom d'ailleurs donné au Delaware, The Company State, l'État-entreprise. En 1897, et ça c'est important, le Delaware se dote d'une nouvelle constitution qui simplifie la création d'entreprises, et notamment de grosses entreprises, de holdings. Et en 1913, Francis Irénée Dupont, un homme d'affaires, publie un influent traité de fiscalité où il ramène l'imposition des sociétés à un taux unique. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais une autre date importante, en 1981, Pierre Samuel Dupont IV, qui était gouverneur de l'État, gouverneur républicain, fait passer plusieurs réformes, dont plusieurs cadeaux fiscaux aux banques et aux entreprises. Résultat, il y a ici, dans cet État, plus d'entreprises enregistrées que d'habitants. 1 600 000 entreprises, je vous le disais tout à l'heure, et environ 1 million d'habitants. Alors, monter une entreprise, c'est devenu très simple. Pas de paperasse, discrétion assurée, certitude que vous n'êtes pas taxé sur les gains réalisés en dehors des frontières de l'État. Tout ça est légal, hein. C'est ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, de la super optimisation fiscale en l'occurrence. Et pourquoi se gêner, se disent les entreprises, dont beaucoup n'ont jamais mis les pieds d'ailleurs dans le Delaware. Donc pas d'impôt sur les sociétés, pas de droit de succession. Il faut juste désigner un agent qui conserve une adresse physique qui servira d'adresse officielle, qui permet de recevoir le courrier et de collecter les documents administratifs. C'est l'objet du bâtiment dont je vous parle et devant lequel je me trouve actuellement. Donc tout ça est assez opaque parfois. Et parmi ceux qui ont profité de la générosité du Delaware, vous avez Victor Boot. Alors, comme ça, c'est peut-être un nom qui vous dit pas grand-chose. C'est le baron, enfin, baron, c'était l'un des barons du crime international et du trafic d'armes. Et ça vous dit peut-être quelque chose parce que son histoire a été racontée dans le film Lord of War, un film avec Nicolas Cage qui expliquer comment il avait réussi à monter ce trafic d'armes au niveau international et ça passait notamment par ici. Alors face à l'avalanche de mauvaises publicités, les règles auraient tout de même changé. J'ai rencontré tout à fait par hasard un trader à New York qui semblait bien connaître le Delaware et ses mécanismes, mais il me disait que la plupart du temps, désormais, il fallait un peu plus qu'une boîte aux lettres pour s'enregistrer, mais au moins un bureau avec une secrétaire, ce qui reste un investissement minimum, surtout pour des entreprises géantes. D'ailleurs, selon la presse britannique, il y a quelques jours, Meghan et Harry et le prince Harry auraient enregistré une dizaine de sociétés au Delaware. L'État reste donc toujours attractif et a priori, ce n'est pas pour son architecture ou la beauté du paysage. Alors, pour conclure cette lettre d'Amérique, j'ai changé d'endroit et je me trouve désormais à la gare de Wilmington, une gare qui, depuis 2011, s'appelle la gare Joseph Robinette Biden, puisque c'est la ville de l'actuel président. Il est né pas très loin en Pennsylvanie, il n'est pas né dans le Delaware, mais il a passé son enfance et sa vie d'adulte ici. Il est aussi surnommé Amtrak Joe. Amtrak du nom du réseau ferré principal aux États-Unis. Il aurait fait près de 8000 voyages entre cette gare et celle de Washington quand il était sénateur. Et en janvier 2017, seulement une heure après avoir terminé son mandat de vice-président, il a d'ailleurs pris le train pour revenir ici, chez lui. Et son histoire avec le train, elle est notamment liée à son histoire dramatique. Vous savez qu'il a perdu en 1972 sa femme et sa petite fille dans un accident de voiture. Ses deux fils ont été blessés et Joe Biden a régulièrement fait les allers-retours entre Washington et la ville de Wilmington pour continuer à élever ses enfants, et c'est devenu depuis l'un des principaux défenseurs du train. Alors c'est un trajet qui se fait assez facilement entre Washington et Wilmington, entre 1h10 et 1h30. Mais lui, il faisait quasiment tous les jours quand il était sénateur. Il a même lancé sa première campagne présidentielle. Ça remonte, la première fois où il était candidat, c'était en 1987. Et bien, il l'a lancé ici, dans cette gare. Et pendant 36 ans, il a pu, dit-il, assister aux anniversaires de ses enfants, leur raconter des histoires avant de s'endormir et les accompagner au football. Et c'est pour ça qu'il dit que Amtrak a changé en partie sa vie, en tout cas l'a simplifié. Il aurait passé l'équivalent de 4 ans de sa vie dans ses trains. Voilà, en ce qui me concerne, vous entendez les annonces, je ne vais pas vers Washington, mais vers New York. On se quitte avec un morceau parfait à écouter dans le train en admirant le paysage. Une reprise du fameux Roxanne de Police. C'est interprété par Massimo Scalici. Thank you and goodbye. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body tonight, Roxanne. You don't have to wear their dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or it's right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. Vous venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application RTL et sur vos plateformes habituelles.